Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias maintenant. Qu'avez-vous au sommaire ce matin, Cyril?
La première grève de l'histoire de BFM, les femmes expertes oubliées de la crise du coronavirus, une symphonie pour la vie et un cœur de sang et d'or.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
France 3 est en tête hier soir. Près de 3 800 000 personnes étaient devant la série Crime Parfait. C'est un peu mieux que le dernier épisode du Seigneur des Anneaux. Un peu plus de 3 et demi de personnes étaient devant TF1 pour regarder le retour du roi. Enfin, M6 est le troisième de la soirée. Plus de 2 300 000 personnes ont regardé La France a un incroyable talent. Un lancement moyen pour ce premier épisode. Toujours question audience. Score très bof, clairement. Pour les Molières, à peine plus d'un million de téléspectateurs sur France 2. C'est vraiment pas beaucoup. En revanche, un succès à signaler pour TMC. Un an chez les vieux, le doc quotidien dont vous avez parlé lundi, a rassemblé 900 000 téléspectateurs.
Culture Média. Et on démarre ce journal des médias avec la première grève de l'histoire du groupe Next Radio TV.
Il faudra peut-être y voir un signe de maturité. Alors je vous rappelle de quoi il s'agit. Next Radio TV, ce sont toutes les chaînes siglées BFM, les chaînes RMC et la radio RMC. Toutes ces antennes sont menacées par un important plan de départ. Il doit concerner entre 330 et 380 emplois sur les 1600 salariés du groupe. Comme je vous l'annonçais lundi, une assemblée générale s'est tenue hier et les salariés ont décidé de faire grève. Une grève qui a commencé ce matin très tôt et à laquelle Jean-Jacques Bourdin a décidé de prendre part, enfin à moitié. Il n'a pas fait la matinale de RMC, mais il était bien présent à l'antenne pour BFM pour son interview politique. Nous avons joint Malika Carbouche, élue CFDT de l'intersyndicale qui regroupe toutes les antennes du groupe. À ses yeux, ce qui pose problème au-delà même du plan social, c'est la méthode de la direction générale. La déléguée syndicale pointe surtout du doigt Arthur Dreyfus, devenu directeur général des activités médias en début d'année, et à la manœuvre sur toutes les réorganisations d'Altice.
C'est Arthur Dreyfus qui a pris le contrôle du pôle média, donc il a été nommé en janvier 2020 en remplacement de son prédécesseur qui était Damien Bernet. Et aujourd'hui, que la personne soit propulsée au rang de directeur général, c'est pas du tout le propos. Mais aujourd'hui, on est face à une direction générale qui est incarnée aussi par cette volonté d'aller à la force et au conflit. Nous, on ne demande qu'à discuter, mais on est très inquiet par la tournure que prennent les événements. Et aujourd'hui, on a eu un rassemblement massif de l'ensemble de ses collaborateurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce message, Arthur Dreyfus doit l'entendre et doit le comprendre. Il doit là comprendre que la méthode n'est pas bonne. Et encore une fois, les salariés ne peuvent pas accepter un plan dans un groupe qui gagne de l'argent. Car aujourd'hui, on se retrouve aussi en phase de dialogue qui ne tiennent pas la route. Les arguments sont là, les faits sont là, on n'est que factuel, nous ne regardons que les chiffres, et les chiffres, c'est mathématique, ça parle de eux-mêmes. Donc, quelle est cette stratégie derrière? Pourquoi jouer cette force-là? Aujourd'hui, il faut entendre, il faut écouter.
La déléguée SFDT en appelle donc à Arthur Dreyfus, à qui j'ai proposé de venir réagir ce matin. Le directeur général en charge des médias d'Altice n'a pas voulu prendre la parole immédiatement, mais m'a promis de venir à ce micro dans quelques jours.
Merci pour l'invitation.
Voilà, ce qu'on ne sait pas, en tout cas, au moment où on se parle, c'est si le débat pour la mairie de Paris entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, qui doit se dérouler ce soir en direct sur BFM TV, pourra se tenir.
Deux rapports publiés hier soir soulignent la faible représentation des femmes expertes à la télévision lors de la crise du coronavirus.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'INA ont effectivement groupé leurs efforts pour mettre en lumière, au fond, ce qu'on sait déjà depuis longtemps. Les femmes sont sous-représentées sur les plateaux de télé. Selon l'INA, elles sont notamment moins visibles lorsqu'il faut incarner des positions d'autorité. Par exemple, quand il faut interroger un médecin ou un chef de service, c'est, dans 39% des cas, un homme qui apparaîtra à l'écran contre 27% pour une femme. En revanche, dès qu'il s'agit de métiers comme aide-soignant ou infirmière, les femmes sont 4 fois plus représentées que les hommes.
Voilà, et puis on notera la disparition volontaire des écrans de celle qui était la plus demandée, qui était Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. C'est pas faute d'avoir été invitée par toutes les radios et toutes les chaînes de télé. Mais Cyril, si cette situation est problématique, elle n'est pas propre à la séquence du coronavirus non plus.
C'est effectivement ce que révèle l'étude cette fois du CSA. La sous-représentation des femmes lors de cette période spécifique est identique à ce qui avait déjà été constaté sur l'ensemble de l'année dernière. Pour autant, là encore, sur la place des expertes, et en l'occurrence des expertes, les chaînes de télé ont laissé très peu de place aux femmes lors de la crise du coronavirus. Alors que, comme le CSA, la place des experts sur le plateau n'a cessé d'augmenter au fil des années, elle s'est effondrée lors de la crise du coronavirus. Lors de cette séquence, elles n'ont représenté que 20% des personnes invitées. Pour vous rendre ça plus clair, quand il y a 10 experts sur un plateau de télé, 8 sont des hommes et seulement 2 sont des femmes.
France 3 nous propose ce soir une symphonie pour la vie.
Et cette symphonie pour la vie, c'est justement le titre de cette grande soirée de musique classique enregistrée la semaine dernière au Théâtre du Châtelet à Paris. Une soirée caritative dont les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Évidemment, ce concert s'est enregistré en respectant les mesures sanitaires, donc sans public ou presque, puisqu'il y avait quelques invités, notamment la première dame Brigitte Macron et le dessinateur Plantu qui croque la soirée. Le dessinateur du Monde s'est également chargé de la couverture du disque Symphonie pour la vie. Louise Bernard a rencontré Nathalie Dessay, qui fait partie des artistes invités à se produire. Elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience et comment c'était de jouer dos au théâtre.
C'est peut-être pas la même adrénaline, probablement. C'est un peu bizarre, quoi, d'être face au fond de la scène avec le théâtre derrière nous, tout vide. C'est très très beau d'ailleurs. C'est un exercice de télévision, donc on sait qu'on enregistre, que ça passera plus tard, mais oui, c'est bizarre. C'est bizarre pour nous de penser qu'on ne va pas retrouver le public avant un grand moment.
Forcément, ce genre d'organisation n'est pas sans conséquences, notamment financières. Le producteur Yanis Chebi nous détaille ce surcoût.
C'est un surcoût entre 20 et 30% d'une production classique normale, puisque effectivement, une émission qui peut tourner, en tout cas, ou qui se préparait en 3-4 jours en plateau, peut aujourd'hui prendre 2 jours, 3 jours de plus. La coactivité n'est plus possible, c'est-à-dire quand on installe, je prends l'exemple d'un plateau en plein air, il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir des corps de métiers différents en coactivité pour préparer l'installation technique, de la lumière, du son, de la régie vidéo, enfin, etc., etc.
Symphonie pour la vie, c'est ce soir sur France 3 à partir de 21h. Un beau concert pour une belle bonne œuvre.
Et puis Cyril, vous teniez à nous signaler une nouvelle série documentaire. C'est à partir de ce soir sur la chaîne L'Équipe.
Vivez en immersion une saison pas comme les autres.
On va avoir besoin de tout le monde. Des derniers temps, cris de jeu.
Il y a
Tanguy
qui va s'entrer sur le bouton pour jouer la lutte.
C'est un public qui donne vraiment tout.
Victoire. Coup de gueule.
Soit tu me files une réponse là. Soit sinon, Mounir est dans le vestiaire demain matin.
Défaite. Stress. Drame.
Le Racing a perdu un des siens.
Et délivrance.
Lance de sang et d'or, c'est le titre de cette toute nouvelle série documentaire qui commence ce soir sur la chaîne L'Équipe, une série en 4 épisodes diffusée en 2 soirées, ce soir donc et demain, qui nous plonge dans les coulisses de la dernière saison de l'équipe lensoise. C'est une première en France. Le producteur François Pesanti nous raconte pourquoi il ne s'agit pas simplement, vous allez le voir, d'un documentaire de sport.
Le type de traitement que propose la série Lance de sang et d'or s'adresse à un public beaucoup plus large que celui des supporters du RC Lens ou que celui des supporters de foot plus généralement. D'abord, pour parler des supporters de foot, je pense que tous, où qu'ils soient, se retrouveront dans ce documentaire, seront intéressés parce que ce documentaire raconte l'histoire d'une saison en 2019-2020 dans le football français, avec des coulisses qui intéressent tout le monde en matière de transfert, sur ce qui se passe dans les vestiaires, dans les causeries. Et au-delà de ça, l'enjeu, en effet, est d'essayer d'aller chercher un public plus large encore pour lui expliquer à quel point le football est important. Et je pense que ce type d'écriture peut permettre à tout le monde de réaliser pourquoi le football est important. Notamment à Lens, parce que c'est un creuset social, c'est quelque chose qui catalyse la culture, la fierté locale. À Lens, il n'y a plus de mine ouverte aujourd'hui, mais c'est à Bollard, dans le football, qu'on continue à célébrer les mineurs de père en fils. Voilà l'importance que peut avoir le RC Lens, et voilà plus généralement pourquoi le football est un enjeu important dans notre pays.
Alors je vous le disais, ce genre de série documentaire sportive n'existait pas encore en France, mais c'est un genre qui commence à se faire un nom, et grâce à Netflix notamment. La plateforme américaine a innové avec une série sur le club anglais de Sunderland. Elle a également parlé de la formidable série sur la Formule 1, et bien sûr, The Last Dance sur les Chicago Bulls de Michael Jordan. J'ai demandé à François Pesanti ce qui caractérisait ces nouveaux docs de sport.
Oui, il y a clairement une attente aujourd'hui de la part des fans, parce que ce type d'écriture et de narration sont totalement complémentaires du direct. Le direct sportif a pris énormément d'importance, et on voit d'ailleurs le manque dans lequel sont les fans et les amateurs de sport actuellement. Et finalement, le corollaire de cette montée en puissance du direct, c'est l'envie de connaître les coulisses, de mieux connaître les personnages. Et parallèlement, pour le monde du sport et ses ayants droit, il y a un intérêt à mettre en avant les personnages, à humaniser leur sport pour essayer d'élargir la base de fans et peut-être pouvoir s'adresser à des publics nouveaux, plus jeunes, plus larges que ceux qui sont actuellement déjà impliqués dans la pratique sportive.
Que vous aimiez le foot ou pas, ou même que vous ayez le mauvais goût d'être supporter du PSG ou le bon goût de supporter l'OM, jetez un œil.
Oh,
c'est quoi
ce que ça veut dire
sang et d'or ce
il est chez lui, lui.
C'est vrai, ça, ici, c'est Paris.
Ça va, comment ça, ici, c'est Paris?
Bon, ici, c'est Saint-Etienne.
Lens, en tout cas, est remonté en Ligue 1, ce qui promet une saison 2 de qualité.
Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau Journal des Médias.